de la vie du comité du 19e siècle, et puis à la fois très exceptionnelle aussi. C'était une star, et j'emploie le mot star à dessein, parce que je dis que c'était la première des stars, parce que le mot star, bizarrement, on pense que c'est un mot du 20e siècle, et en fait non, c'est un mot qui était employé déjà en 1840. Et d'ailleurs à l'époque, on pouvait employer au masculin ou au féminin, on disait aussi le star, mon Frédéric Le Maître. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on ne se doute pas que c'est aussi ancien. Alors, je vous en parlerai avec trois thèmes. D'abord, ses origines, son apprentissage et ses débuts au théâtre français, parce que ça a quelque chose de vraiment romanesque. Ensuite, ses rôles et son style. Et enfin, les tournées. Et vous verrez d'ailleurs qu'au cours d'une dernière tournée, elle mourra quasiment au cours d'une dernière tournée, de façon tout à fait tragique, en Amérique. Alors, tout d'abord, ses origines, son apprentissage et ses débuts. Le parcours de Rachel, c'est un roman d'aventure avec la rencontre de plusieurs bonnes fées, parmi lesquelles des professeurs. Rachel était une bohémienne au sens propre. Sa mère, Esther Aya, était née en Bohème. Son père, Jacob Félix, était un colporteur. Et à sa naissance, ses parents couraient encore les routes. C'était la deuxième fille du groupe. Elle était née le temps d'une halte. Le 28 février 1821, on a eu d'ailleurs beaucoup de difficultés à préciser la date exacte, parce qu'il n'y avait pas d'acte réellement, elle est née dans une auberge d'un village suisse. À la naissance de leur troisième enfant, Raphaël, en 1826, les parents Félix, s'installent en France à Lyon. Deux filles naissent encore en 1829 et 1830. La famille était extrêmement pauvre, et le père qui avait appris à ses deux aînés à déclamer et à chanter, les envoyait vendre des oranges et dire des chansonnettes dans les cafés. Si elles ne rapportaient pas d'argent, elles se faisaient battre. Un jour, un homme très important dans sa vie, qui s'appelle Alexandre Choron, entend les deux petites filles, enfin dans la vie de Rachel, je veux dire, et frappé par la voix de la plus grande, qui s'appelait Sarah, il demande leur adresse. Le lendemain, il va voir la famille. Le père était malade, il était alité dans une mansarde, on se croirait dans un film, et il lui propose de prendre en pension sa fille, non pas Rachel, mais la grande Sarah, pour lui faire travailler sa voix. Alors, en août 31, les Félix viennent à Paris, et ils disent à Alexandre Choron, c'est d'accord, mais vous prenez non seulement Sarah, vous prenez également Elisa. Car Rachel, à l'époque, son premier prénom est Elisa, Rachel étant son second, et c'est Choron qui a changé ce prénom, et elle s'est appelée ensuite Rachel. Certains n'ont pas résisté à ajouter à cette histoire une image d'Épinal. Arsène Housset raconte, par exemple, que Victor Hugo, entendant la jeune Rachel chanter dans la rue, lui aurait donné une pièce d'argent, lui aurait donné des vers et l'aurait sanctifié d'un baiser. Alors c'est vrai qu'on ne résiste pas à ce genre d'éducation. Alors, il faut dire un mot de Choron, parce que c'est un homme très intéressant et important donc, pour Rachel. Il est né à Caen en 1772 et il avait une seule passion, c'était la musique. Mais il était le fils d'un homme menti et il a d'abord dû faire de solides études chez les oratoriens à Juilly. Mais comme son père refusait de lui donner des maîtres de musique, il a étudié tout seul les écrits théoriques de Rameau et de son école. Il est obligé, malgré tout, de se spécialiser en mathématiques. Il devient tellement compétent dans ce domaine qu'il devient répétiteur à l'école normale en 1795, puis l'année suivante, chef de brigade à l'école polytechnique qui venait d'être fondée. Mais il avait une idée fixe, c'était de populariser la musique en France, et il s'est ruiné à publier des œuvres classiques de manière compositeur. Après avoir été en 1811 directeur de la musique dans les fêtes publiques et les cérémonies religieuses, il est nommé régisseur général de l'opéra en 1815. Mais en 1817, il est congédié parce qu'il avait voulu apporter trop de nouveautés à l'opéra. Alors, il fonde cette école où vont aller les deux petites, qui était une école 69 rue de Vaugirard. C'est une école royale de chant et de déclamation. Et il sillonnait la France en quête de jeunes talents. C'est comme ça qu'il a été amené à entendre les deux petites Félix. La réaction anticatholique en 1830 met Choron à la retraite. Et on lui supprime quasiment la subvention de l'institution qu'il dirigeait. À partir de ce moment-là, jusqu'à sa mort en 1834, donc pendant 4 ans, il consacre toutes ses ressources personnelles à sa petite école de musique, où il entretient 12 enfants de familles pauvres. Donc Donc les deux filles Félix restent dans l'école de Chiron entre 1831 et 1833. Contrairement à sa sœur Sarah, Rachel n'avait pas la vocation d'une cantatrice, mais elle manifestait un goût très vif pour la poésie. Chiron la présente donc à son ami Saint-Aulaire, qui est sociétaire du Théâtre français depuis 1826 et qui dirige un groupe d'art dramatique. Voilà donc le deuxième professeur qui arrive dans la vie de Rachel. Alors Rachel, il faut la décrire. Elle était petite et frêle, elle avait encore à cette époque un accent allemand, et surtout elle était très pauvre. Pour toutes ces raisons, elle était en butte aux moqueries de ses camarades. Saint-Aulaire allait la congédier, parce qu'elle n'avait pas un sou, lorsqu'un jeune homme, inscrit à son cours, a intercédé en sa faveur et s'est engagé à payer pour elle la cotisation mensuelle. Ce jeune homme, c'est aussi une histoire romanesque, qui s'appelait Jean-Baptiste Ancelin, il avait à l'époque 25 ans, et il avait hérité à la mort de ses parents de 46 000 francs. Jusque-là, il travaillait dans un atelier de maroquinerie, mais il se sentait profondément artiste, donc il a essayé de devenir artiste, il a d'abord joué de l'art, mais ça ne marchait pas très bien, et il s'est mis à faire du théâtre, et c'est comme ça qu'il est entré dans ce cours de Saint-Aulaire. Il a aidé d'abord Rachel, personnellement, et puis, le père de Rachel ayant quitté Paris et abandonné sa famille, il a été sollicité par toute sa famille. Ça a d'ailleurs fait un drame, parce qu'après, quand Rachel a bien réussi, il a dit, mais elle nous doit beaucoup, et effectivement, elle nous devait beaucoup. Surtout, tout le monde l'avait exploité dans cette famille. Le cours de Saint-Aulaire finit en avril 35 par s'installer dans un vrai petit théâtre, le Théâtre Molière, vous le connaissez puisque c'est maintenant la Maison de la Poésie. Le dimanche, on y donnait des représentations, de midi à 5 ou 6 heures. Saint-Aulaire chargeait ses jeunes comédiens de vendre des clés, et par ailleurs, les jeunes comédiens devaient assumer tous leurs frais personnels. Ils achetaient les livrets, les copies de rôles, ils achetaient leurs costumes aussi, et puis ils avaient des frais de maquillage, des locations de perruques et des déplacements dans Paris. Et pour tout ça, Jean-Baptiste Ancelin payait pour Rachel. C'est alors que Sanson, troisième professeur, professeur au conservatoire, entendit parler de la jeune fille par certains de ses élèves, qui lui donnèrent l'envie de la découvrir. Il se souvient, parce que Sanson a écrit des mémoires. J'allais l'entendre un jour qu'elle jouait dans le Don Sanche de Corneille. J'avoue qu'elle m'étonna dans le personnage d'Isabelle, reine de Castille. Je fus frappée du sentiment tragique qui se révélait en elle. Le feu sacré brûlait dans cette jeune et faible poitrine. Elle était alors très petite, et cependant, chargée du personnage d'une reine, elle rapetissait par son air de grandeur les acteurs qui l'entouraient. C'était de grands garçons sans habitude du théâtre, et dont son aisance faisait encore mieux ressortir la gaucherie. Donc il lui rend visite en coulisses à l'entracte, et elle était habillée en homme pour la comédie qui suivait, parce qu'il jouait plusieurs pièces à la suite. Alors elle s'amusait, en enfant qu'elle était encore, elle jouait à cloche-pied. Alors il continue, elle jouait en ce moment à je ne sais plus quel jeu où il fallait sauter à cloche-pied, et c'est dans cette attitude que je surpris l'ex-reine d'Espagne. Elle écouta mon compliment, une jambe en l'air, me remercia avec beaucoup de gentillesse et reprit son exercice. Sur ces entrefaites, le père de Rachel rentre à Paris, et il est tenté par le succès d'une troupe d'enfants qui s'appelait la troupe de Pierre Castelli, qui jouait au théâtre Ventadour. Alors, il faut dire qu'à l'époque, parce que tout ça a été interdit après sous Louis-Philippe, mais à l'époque, les troupes d'enfants fonctionnaient très bien et faisaient d'ailleurs, d'abord, on leur apprenait les choses et ensuite, on les emmenait en tournée dans toute l'Europe. Et dans les années 1840, il y a eu une loi disant que tout ça devait s'arrêter et que c'était l'exploitation des enfants systématiques. Donc, à ce moment-là, le père de Rachel se dit, mais avec mes enfants et d'autres que je vais engager, je vais organiser une troupe d'enfants comédiens. Mais Dieu merci, Saint-Aulaire l'a convaincu de laisser Rachel continuer à étudier. Sa sœur Sarah, elle, avait été admise au conservatoire dans la classe de vocalise. À 14 ans, Rachel savait à peine lire et écrire. Les cours chez Saint-Aulaire avaient lieu le soir après le dîner. On travaillait pendant la semaine la lecture, l'écriture, la déclamation, la récitation, la mise en scène. Le dimanche, on représentait des ouvrages du répertoire classique. Rachel ainsi parut dans 34 rôles différents sur la petite scène du Théâtre Molière, depuis les soubrettes jusqu'au personnage tragique. Donc elle travaillait énormément. À l'automne de 1836, elle a donc 15 ans, Védel, qui est caissier du Théâtre français, vient au Théâtre Molière pour voir jouer, non pas du tout Rachel, mais une jeune fille qui éventuellement pouvait débuter au Théâtre français. Mais le programme avait changé, et on se préparait à donner Andromaque. Saint-Aulaire insiste auprès de Védel et il lui dit, mais vous ne pouvez pas partir, Rachel entre en scène, il faut que vous la voyez. Donc elle reste, il reste. Et Védel fut stupéfait par sa manière de réciter les Alexandrins. Voilà ce qu'il dit. Je cherchais une faute, un non-sens, sans pouvoir les trouver. C'était une diction pure, correcte, sans déclamation, sans emphase, franche, naturelle, et pourtant avec le ton soutenu qu'exige la haute poésie. Le lendemain, il est tellement ébloui qu'il va trouver le directeur du théâtre français, qui à ce moment-là est Joulin de la Salle, et il lui signale sa découverte. Saint-Aulaire avait déjà parlé de Rachel à Joulin de la Salle, par lequel il espérait la faire engager pour jouer des rôles d'enfant. Rachel fut donc admise au conservatoire en octobre 1936. Le 20 décembre, elle dut subir l'examen de rigueur des élèves de chant et d'études dramatiques. Alors elle entre dans la classe de déclamation qui avait été rouverte le 20 mars 1936 sous la direction de Provost, Michelot et ce troisième homme si important, Sanson. Sanson d'ailleurs lui obtient tout de suite une pension d'encouragement de 600 francs. Mais dès le 24 janvier 1937, donc même pas un mois après, enfin, quasiment, Rachel quitte le conservatoire parce que son père voulait qu'elle gagne davantage. Et là, on voit des drames de Rachel parce que toute sa vie, son père était derrière elle et sa famille était sur son dos et elle a toujours eu à fournir beaucoup pour la famille entière. Alors sans doute a-t-elle demandé conseil à Saint-Aulaire et sans doute est-ce Saint-Aulaire qui a adressé au directeur du gymnase cette petite Rachel. Et le directeur du gymnase l'a engagé aux appointements de 3000 francs annuels. Ce qui n'est pas mal du tout si, je vous le rappelle comme point de comparaison, une famille d'employés vivait à l'époque avec 2000 francs par an. Donc là, elle gagne à elle seule 3000 francs, c'est bien. Le 24 avril 1937, elle fait ses débuts dans La Vendéenne, un mélodrame à partir d'un roman de Walter Scott, où elle interprète Geneviève, fille d'un paysan vendéen, menacée du conseil de guerre, qu'elle sauve en allant se jeter aux pieds de l'impératrice Joséphine. Mais il y avait là quelqu'un qui a compté, qui est Jules Janin, qui a vu le spectacle, Jules Janin, le critique du journal des débats. Et Jules Janin, immédiatement, s'est décerné son talent, puisqu'il écrit dans le journal des débats, le lendemain, Rachel joue avec beaucoup d'âme, de cœur, d'esprit et très peu d'habileté. Elle a naturellement le sentiment du drame qu'on lui confie, et pour le comprendre, son intelligence lui suffit. Elle n'a besoin des leçons et des conseils de personne. Nul effort, nulle exagération, point de cri, point de geste, une grande sobriété dans tous les mouvements de son corps et de son visage. Elle n'est pas jolie, mais elle plaît. En un mot, il y a un grand avenir dans ce jeune talent. C'était quand même très doué, puisque quand il écrit ça, personne n'en avait jamais parlé. Donc elle joue ensuite dans une comédie, mais là encore c'est de la chance, le directeur du gymnase, de l'Estre-Poisson, lui conseille de reprendre ses études classiques, parce qu'il sentait bien qu'elle valait mieux que ce qu'elle était en train de faire. Rachel retourne voir son professeur Sanson, qui la prend sous son aile. Non seulement il la fait travailler, mais il l'intègre dans sa famille. Il l'emmène à la campagne avec ses filles, il la traite réellement comme sa fille. En février 1938, Sanson obtient de Védel, qui avait succédé à Joulin de la Salle à la tête du théâtre français, qu'il entende son élève et constate ses progrès. Védel engage sur le champ la jeune fille, sans l'audition habituelle devant le comité d'administration, et cette fois-ci il lui donne 4000 francs par an. Cependant, Sanson continue à veiller à son éducation, et il écrit dans ses souvenirs, « Comme elle est d'une extrême ignorance, vu la pauvreté de ses parents, j'ai dit à son père de lui donner pour maîtresse de langue et d'histoire Madame Bronzel, professeure de mes enfants, qui veut bien ne lui prendre que 20 francs par mois. Quant à moi, j'ai déclaré que je continuerai à lui donner mes leçons gratis. » Pendant 3 mois, donc, Rachel répète avec Sanson les grands rôles tragiques. Mais comme Védel ne s'occupait pas de la faire débuter, le 10 juin, elle entre dans le bureau du directeur et elle lui dit « Je veux jouer tout de suite. » Alors il lui dit « Bon, ben après-demain. » Mais après-demain, il n'avait pas le costume complet du rôle, pour le rôle qu'il lui avait choisi, et c'était Camille dans Horace. Alors lui-même, voyant l'énergie de la jeune fille et son désir de jouer, a porté ce qui manquait chez elle, et elle avait son costume pour après-demain. Le 12 juin 1938, grande date, Rachel interpréta Camille pour la première fois, devant un public assez clairsemé, ce qui était normal et pour le théâtre français qui à l'époque était très poussiéreux et peu fréquenté, et pour la saison. C'était déjà, il faisait déjà trop chaud. La recette ce soir-là fut de 750 francs. Donc pas grand-chose. On trouvait dans l'assistante, Mademoiselle Mars et son amie, la poétesse Marceline Desbordes-Valmore, dont vous savez peut-être qu'elle a été comédienne avant d'être poétesse. Mademoiselle Mars avait fait partie du petit comité réuni par Julien de la Salle lors de la première audition de Rachel. Sanson raconte. Dans les trois premiers actes, le rôle de Camille n'offre rien de remarquable, excepté une scène entre elle et Julie. La jeune tragédienne fut écoutée avec intérêt. On remarqua la justesse de son débit, la netteté de son articulation, et dans son action comme dans sa parole, une noble simplicité à laquelle on n'était plus accoutumé. Au quatrième acte, le succès fut éclatant, et à la fin des imprécations, elle fut couverte d'applaudissements, tel qu'on eût pu croire à la présence de 2000 spectateurs. Puis Rachel a joué Émilie dans Cinna, Hermione dans Andromaque. En août, elle a joué Aménaïde dans une pièce de Voltaire qu'on ne voit plus beaucoup, qui est Tancrède. Et alors là, malgré, bon, il y a eu un grand service de presse qui a été fait pour la reprise de Tancrède. On l'avait annoncé longtemps à l'avance, il y a eu des affiches. Bon, et la salle a été comble, mais il y avait un très grand nombre de billets qui avaient été donnés. Donc la recette n'a produit que 623 francs, ce qui est encore moins que ce qui était en juin. Mais Rachel a trouvé ainsi l'occasion de se produire à de nombreuses reprises pendant cet été-là. Seulement le problème, c'est que l'été à Paris, il n'y a ni la bonne société, ni les journalistes. Et tout ça, ça faisait que ça ne pouvait pas beaucoup avancer. Le 16 août, Rachel avait fait 10 débuts, ce qu'on appelle des débuts, c'est-à-dire le droit de jouer un nouveau rôle, enfin un nouveau personnage. Et c'est beaucoup plus qu'il n'était d'usage d'en accorder, parce qu'en général, on accordait à une jeune comédienne 5-6 débuts, pas plus, mais 10 débuts, c'était énorme. Et les recettes n'avaient pas augmenté, donc on disait, on ne peut pas continuer comme ça. Et par ailleurs, il y avait des sociétaires qui possédaient le genre de rôle qu'elle jouait, qui possédaient le rôle de princesse de tragédie, par exemple. Elle voulait rentrer en possession de leur rôle. Donc tout ça, ça créait beaucoup de difficultés. Vedel, malgré tout, fait poursuivre les débuts de Rachel en attendant d'aller solliciter l'aide des journalistes à leur retour de vacances. Alors avant de voir le retour de vacances des journalistes, et en particulier, bien entendu, notre ami Jules Janin, on va s'arrêter un moment pour se demander qu'est-ce que Rachel avait de particulier, puisque tout le monde dit qu'elle était si particulière. Elle était brune, elle était pâle, elle avait les yeux plutôt petits et enfoncés. C'est vrai que quand on voit ses tableaux, elle a rien de remarquable, enfin ses portraits. Rachel n'était pas belle, mais elle étonnait. Elle étonnait par sa maigreur. Parce que, d'ailleurs, sa maigreur, elle la cachait en sachant admirablement draper les plis de ses robes. Elle était connue pour ça au Théâtre Français. Alfred de Musset écrit « Ceux qui ne se représentent une reine de théâtre qu'avec une encolure musculeuse et d'énormes appâts noyés dans la pourpre ne trouveront pas leur affaire. La taille de Mademoiselle Rachel n'est guère plus grosse qu'un des bras de Mademoiselle Georges. » Vous savez que Mademoiselle Georges était devenue absolument énorme, à la vie passant surtout, alors évidemment la comparaison est terrible. Elle étonnait aussi Rachel par son élégance innée, qui contrastait évidemment avec l'idée qu'on se faisait de son milieu d'origine. Cette fois-ci, c'est Sanson qui parle. Sa démarche et son geste étaient aisés, tous ses mouvements souples, enfin toute sa personne remplie de distinction. Elle avait, pour me servir d'une expression en usage, des mains et des pieds de duchesse. Ça, c'est Balzac. Cette finesse et cette élégance faisaient d'ailleurs qu'on appréciait mal sa taille. Et c'est très curieux de voir selon les textes qu'on la déclare grande ou petite. Et tout ça, c'est parce qu'elle se tenait très droite et qu'elle avait beaucoup d'allure. Elle étonnait surtout par sa voix et par sa diction. Sa voix était un contralto sans grande étendue, mais, Sanson dit, grâce à l'extrême justesse de son oreille, elle s'en servait avec une extrême habileté et arrivait aux inflexions les plus fines et les plus délicates. Quant à sa diction, alors voilà ce qu'en écrit Théophile Gautier, qui était un merveilleux critique dramatique, comme vous savez. Rachel n'a jamais dit les vers prosodiquement et mélodiquement. Elle les a toujours récités selon le sens et non selon la mesure. Ceci ne veut pas dire qu'elle les fausse. Les périodes poétiques deviennent des phrases dans sa bouche. Elle les prononce sans déclamer, sans chanter, plus soucieuse de la parole que de la musique. En un mot, elle débite une tirade en vers, comme si elle était écrite en dehors du rythme et de la rime. Et c'est ça qui était très nouveau pour l'époque, parce qu'on marquait au contraire beaucoup les vers, et elle tout d'un coup a donné à l'autre phrasé. Elle ne crie ni ne gesticule, elle ne cherche pas les faits. Et Gautier dit, c'est l'excite l'enthousiasme, c'est en disant les vers les plus simples, souvent les moins saillants, et aux endroits où l'on s'y attend le moins, Quand en Crète, par exemple, lorsqu'Aménaïde, accusé par son amant, s'écrie « Il devait présumer qu'il était impossible que jamais je trahisse un si noble lien », il est certainement difficile de trouver deux vers plus ordinaires. On peut même dire plus prosaïques. Ils sont au milieu d'une tirade et par conséquent n'appellent point l'attention. Cependant, quand Mademoiselle Rachel les prononce, un frémissement électrique parcourt toute la salle. Les applaudissements éclatent de toutes parts. On peut juger par cet exemple du talent particulier de la jeune actrice, car ces deux vers, tout faibles qu'ils sont, n'en expriment pas moins un sentiment vrai, l'indignation d'une âme loyale qui se voit injustement soupçonnée. Ce sentiment suffit à Mademoiselle Rachel, elle s'en empare et elle le rend avec tant de justesse et d'énergie que ce seul mot d'impossible devient sublime dans sa bouche. Et donc, on dit que ce système de diction serait venu à Rachel de Talma par l'intermédiaire des leçons de Samson. Et Samson, en effet, apprenait à ses élèves qu'il était inutile de forcer sa voix et que l'art n'était pas dans l'exagération mais dans la retenue. Il citait d'ailleurs le cas d'un acteur très connu à l'époque, qui s'appelait Joanny. Il disait « Joanny fut un jour parfait parce que dans l'Oreste d'Andromaque, il avait mal à la gorge et pour une fois, il a dit les choses plus mal qu'il le disait d'habitude. Il fut simple, noble, discret dans sa gesticulation, d'ordinaire surabondante. Il eut des mots et des accents à la Talma. » Alors maintenant, arrivons donc au fameux feuilleton de Jules Janin qui a déclenché toute la célébrité de Rachel. Alors je vous lis le début de ce feuilleton. Étudiez avec une attention sincère la plus étonnante petite fille que la génération présente ait vue monter sur un théâtre. Cette enfant, c'est Mademoiselle Rachel. On lit ça donc le 10 septembre 38 dans le feuilleton du journal des débats. Alors Jules Janin, il faisait chaque lundi l'état de la semaine théâtrale depuis 1829 et il a fait ça jusqu'à sa mort en 1874. Autant dire que c'était une vraie puissance théâtrale, un véritable oracle en la matière. On ne pouvait rien faire sans que Janin soit passé par là. Un feuilleton entier consacré à une seule actrice, c'était une chose très rare. Et on le remarqua d'autant plus ce lundi-là que tout était sur Rachel. Janin ne manquait d'ailleurs pas de souligner sa perspicacité, puisque bien sûr, il dit, mais en 1837, au théâtre du gymnase, il y a bientôt un an, moi, à peu près seul, je disais que c'était là un talent sérieux, naturel, profond, un avenir sans bornes, et il est jeune. Notez bien que cette enfant est petite, assez laide, poids de poitrine, l'air vulgaire, la parole triviale. On peut juger que Rachel n'a pas été tout à fait contente quand même de lire ça. Mais enfin. Julien a été rentré d'Italie au début de septembre, et Védel lui avait aussitôt rendu visite pour lui demander instamment de venir voir Rachel. Le 4 septembre, Rachel avait spécialement pour Janin interprété son personnage d'Hermione, celui où depuis le mois de juin, elle obtenait le plus de succès. Donc vous voyez que tout ça, c'était une stratégie très bien orchestrée. Sans attirer les foules aussitôt, ce feuilleton fit pourtant monter les recettes. Le 11 septembre, les recettes atteignent 1300 francs. Et à partir de là, elles restent supérieures à 1000 francs. Sur les 715 000 francs de recettes sur toute l'année 1838, les 48 soirées qu'a données Rachel vont représenter 170 000 francs. C'est quand même pas mal. Le lundi 24 septembre, Janin revient à la charge, donc 2 semaines après son premier feuilleton. Le 27, Sina passait la barre, le 27, donc 3 jours après, Sina passait la barre des 3 000 francs dans la soirée. Cette fois, déclara Védel, Jules Janin avait dit Fiat Lux. Et la lumière fut faite, lumière splendide, éclatante, inondant de ses rayons l'intérieur et les abords du théâtre français. De proche en proche, l'enthousiasme se propagea comme une étincelle électrique, et chacun s'empressa de courir vers le sanctuaire que recélait la divinité. Pardon, qui recélait la divinité ? Paris n'avait plus d'autres pensées, plus d'autres préoccupations. Rachel détournait à elle seule toute l'attention. En un mot, depuis la loge du portier jusqu'à la mansarde, elle était l'objet de tous les entretiens. Alors il fallait faire la queue pendant 2 ou 3 heures avant l'ouverture des 2 bureaux de distribution de billets, qui se fermaient quelques instants après cette ouverture parce qu'il n'y avait plus de place. Les recettes ont grimpé en conséquence. La soirée qui suit immédiatement l'article du 24 septembre voit monter de plus de 1000 francs à la recette de la soirée précédente. 2 jours plus tard, on dépasse 4000 francs. 15 jours après, on fait 6000 francs. Et pendant bien longtemps, on ne fera jamais moins de 5000 francs, et cela tout d'abord avec le seul répertoire classique. C'est Bedel qui raconte ça. Ils sont amusants ces gens, parce que comme ils l'ont connu de près, bien sûr, quand ils écrivent leurs souvenirs, tout ça, ils sont enthousiastes, comme vous le voyez. Enfin, il y a aussi tout le, oui, tout le plaisir du souvenir, bien entendu. Sans que Rachel le demande, Bedel augmente ses appointements. Fin octobre, il double son traitement, puis en novembre, il ajoute 1000 francs de gratification mensuelle, ce qui fait au total 20 000 francs par an. Deux mois plus tard, le père Félix demande pourtant que le traitement de sa fille soit doublé et porté à 40 000 francs. Rachel fut fêtée par le tout Paris, et à ce moment-là, elle a pour amant et admirateur un homme important, le docteur Véron, qui a été ex-directeur de l'opéra, qui a été directeur de l'opéra, et il a organisé en son honneur, pour le tout Paris, le 29 septembre, une soirée avec un concert, un bal et un festin, dans son nouvel appartement, rue Thédée. Il a convié une centaine de personnalités de la littérature, de la médecine, des arts et du théâtre, plus quelques spécimens de la jeunesse dorée, tout ça composant tout Paris. Rachel est arrivée avec sa mère, accompagnée de Védel et de son sœur, en blanc, sans un bijou. Ça, c'est très important, parce que ça faisait partie de l'image de marque de Rachel. Quand elle venait dans un salon, elle avait toujours un chaperon, c'était sa mère, et elle était toujours dans le plus simple appareil, c'est-à-dire vêtue d'une robe blanche, point, rien du tout d'autre. Alors tout le monde disait, mon Dieu, c'est ça la star, et on n'en pouvait plus du contraste, bien entendu. Le roi, qui n'était pas venu au théâtre depuis 3 mois, parut dans sa loge le 26 octobre pour assister à Cinna, en compagnie de sa fille et de son mari, le roi des Belges, qui était en visite à Paris à ce moment-là. Et Louis-Philippe et Marie-Amélie sont allés féliciter Rachel. Alors voilà donc, Rachel est donc députée et on est à 40 000 francs par an. Nous passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire ses rôles et son style. Alors qu'est-ce que c'est que la modernité? La modernité, c'est une rupture dans les habitudes du temps, et Rachel a incarné cette modernité en disant autrement les textes anciens, de manière à les faire entendre à nouveau. Quand elle est apparue, l'ancien répertoire tombait en désuétude, la tragédie était au purgatoire, puisque il n'y avait, depuis des années, il n'y avait plus que le drame romantique qui marchait. Et le théâtre français ne faisait plus recette du tout. Presque 5 ans plus tard, en mai 43, Théophile Gautier fait un bilan. Et voilà ce qu'il dit. Grâce à elle, nous avons revu Hermione, Camille, Émilie, Pauline, toutes ces belles, chastes et nobles héroïnes que nos pères admiraient tant, et que nous nous étonnions de trouver si solennellement ennuyeuse. Il faut vous dire que, bien sûr, rappelons au passage que Gautier, c'était vraiment romantique, et qu'il avait horreur de la tragédie. Il ne cesse pas de le dire, d'ailleurs, tout le temps de ses chroniques dramatiques. Il dira, si, mon Dieu, quel ennui. D'ailleurs, il leur arrive de se battre les uns les autres, l'un qui sent racine épouvantable, les autres disant quand même, tu exagères. Enfin, on voit comme ça des dîners où ils s'arrachent quasiment les cheveux à propos des classiques, justement. Toutes ces bandes de Gautier. À coup sûr, si jamais succès a été grand, légitime et sans protestation, c'est celui de Mademoiselle Rachel. Mais, dit-il, ce succès est limité et improductif. Limité parce qu'il n'entraîne pas un intérêt plus large pour les textes qu'elle interprète. Au théâtre français, les spectateurs écoutent la seule Rachel. Dans Phèdre, par exemple, tant qu'elle est en scène ou qu'elle récite une tirade, toute la salle est attentive. Les mouchoirs restent dans les poches, les rhumes sont étouffés, on entendrait voler un moucheron. Dès qu'elle a fini et qu'elle rentre dans la coulisse, les conversations recommencent, on tourne le dos au théâtre, on rit aux éclats, on lit le journal. Et c'était la vérité, hein, ce qu'on décrit du théâtre français à l'époque, c'est tout à fait ça. C'est que selon Gautier, le genre qu'elle interprète est daté. La tragédie en 5 actes et en vers ne correspond plus au rythme de la vie moderne. On est plus près à concentrer son attention sur les nuances de la passion et sur les méandres du cœur humain. C'est trop fatigant. Paresse d'esprit, ajoute le critique, qui explique ainsi l'énorme développement récent de la musique. Ça, c'est intéressant comme idée. Il dit, on peut entendre un opéra ou regarder un ballet sans avoir pour autant besoin de se concentrer. Donc ça convient beaucoup mieux aux esprits contemporains. Une civilisation blasée, dit-il, a besoin de divertissement et non de contention d'esprit. Le succès de la jeune actrice est par ailleurs improductif, puisque depuis 1838, ça c'est toujours Gautier qui parle, il dit ce qui est grave, c'est qu'aucun auteur un peu dans le vent n'a écrit pour elle de rôle actuel, de rôle dans un drame. Et il est vrai que Rachel avait beaucoup de mal à sortir de la tragédie classique. D'abord de la tragédie. Elle s'est bien essayée à la comédie, en jouant Elle a joué Célimène dans Misanthrope à Londres en 1847 et à Tours en 1849. Mais elle n'a jamais osé tenir ce rôle à Paris. Et pourtant, elle avait reçu des encouragements, puisque toujours Gautier, en 1844, qui l'avait interprété Marinette dans Le dépit amoureux, a apprécié, dit-il, sa brutalité rustique. Plus proche, selon lui, des intentions de Molière que ne l'était le débit précieux des soubrettes ordinaires. Et il en conclut qu'avec un peu d'exercice, elle jouerait aussi bien Molière que Racine. Mais elle n'a pas osé quand même. Rachel avait surtout du mal à s'éloigner du répertoire classique pour aborder le vrai contemporain, c'est-à-dire le drame écrit en prose. Elle avait bien tenté d'interpréter les tragédies contemporaines. Alors là, il y en avait, évidemment, les choses trop bêtement oubliées. Il y en a une, par exemple, qui s'appelait Virginie, d'un certain Latour de Saint-Ibard. J'imagine que le mot ne dit pas grand-chose. Elle l'a créée en avril 1945. Les vers étaient, dit Gautier, assez mal rimés, le style à la fois maniéré et terne, mais la présence de Rachel rachetait ses défauts. Qu'importe la tragédie, pourvu qu'on ait la tragédienne. Mademoiselle Rachel a fait de cela un ravissant poème dont tout l'honneur lui revient. Avec un son de voix, une intonation, un geste, un regard, un pli de draperie, un canet sur l'épaule, une certaine façon de nouer ses cheveux et de laisser tomber ses bras, elle a réalisé une délicieuse figure qui justifie l'amour effréné de la puce. Mademoiselle Rachel paraît dès le premier acte et ne quitte presque pas la scène. Quelle tragédie ne réussirait pas avec cela? De fait, cette épouvantable tragédie réussit fort bien puisqu'elle fut jouée 22 fois, à raison de 2 fois par semaine, jusqu'au départ en congé de Rachel le 10 juin. Les gens venaient évidemment pour voir la vedette. De la même manière, Rachel a repris en mars 1946 une tragédie en 5 actes et en vers d'Alexandre Soumet, Jeanne d'Arc, qui avait été créée par Mademoiselle Georges à l'Odéon en 1825. Ça devait être très douloureux parce que pendant les 4 premiers actes, l'héroïne était en prison. L'acte 5 seul apportait un élément dramatique. Mais Rachel a fait quelque chose de formidable. Sanson lui a fait travailler le rôle. Et il lui a fait lire Michelet, et Michelet parlant de Jeanne d'Arc. Et voilà ce que dit Gautier. Une divine mélancolie alanguissait ses yeux habitués au noir regard tragique. Et la résignation chrétienne ployait ce front de marbre que la fatalité antique n'a jamais pu courber. La transformation était complète. Gautier en tire la conclusion que l'effet produit par Mademoiselle Rachel tient à des causes purement plastiques, puisqu'il est le même que la tragédienne dise des vers très beaux ou très médiocres. Le public, à son insu, trouve un grand plaisir à voir le corps souple et nerveux se mouvoir harmonieusement dans les rythmes connus des sculpteurs et des poètes antiques. L'autre soir, personne ne pensait en l'écoutant, et surtout en la regardant, aux tirades d'Alexandre Soumet. C'est probable, hein? Si bien que, lorsqu'en avril 49, l'actrice aborde le rôle d'Adrienne le couvreur, c'est une grande première. La représentation était très attendue, moins pour la découverte du texte de Scribe de Bouvet, que parce que Mademoiselle Rachel devait ce soir-là franchir le Rubicon, quitter l'alexandrin pour la prose, et jouer pour la première fois un rôle de drame. Alors Adrienne le couvreur, vous savez ce que c'est l'histoire d'une actrice qui était... le drame est terrible parce qu'elle raconte comment cette actrice était éperdument amoureuse de Maurice de Saxe et comment elle a été empoisonnée par jalousie, par une maîtresse de Maurice de Saxe. Mais naturellement, c'est une fille qui non seulement est l'actrice, elle est non seulement géniale, mais en plus elle est totalement dédiée à son amant, elle fait tout pour lui. Enfin, donc évidemment le public pleure et tout ça va bien. C'est une pièce qui a très très bien marché. Et je dois dire qu'il fonctionne encore. Quand on lit ça, c'est encore possible, à l'inverse des choses que je vous citais avant. Or, dans Adrienne le couvreur, Rachel a paru très à l'aise avec la prose. Rien d'étonnant à cela, dit Gautier, puisqu'elle a toujours récité des alexandrins selon le sens et non selon la mesure. Et qu'elle prononce les périodes poétiques comme des phrases, sans déclamer ni chanter. Elle a exprimé tous les sentiments de la gamme dramatique, tantôt affectueuse, tantôt passionnée, tantôt sarcastique, tantôt révoltée. Et Gautier de conclure qu'elle se fie au génie de notre siècle et elle verra quelle moisson de couronne lui réserve l'art moderne. Malheureusement, le génie de notre siècle, comme il dit, ne s'est guère manifesté dans les pièces contemporaines que Rachel a interprétées par la suite. En février 51, elle interprète une tragédie contemporaine qui s'appelle Valéria, une tragédie de Jules Lacroix et Auguste Maquet. Auguste Maquet, d'ailleurs, le collaborateur de Dumas. Évidemment, la tragédie ne valait que par le jeu de Rachel, qui jouait, c'est intéressant, les deux rôles en même temps. Elle jouait le rôle de Valéria, l'impératrice vertueuse, et de son sosie, Lysiska, qui, elle, court les rues. La dernière création de sa carrière, en 1855, avant qu'elle ne parte pour les États-Unis, c'est un drame historique de Scribe, La Czarine, qu'elle joue en janvier 1855. Elle incarne la grande Catherine, et pour compenser la médiocrité du texte, elle choisit d'éblouir le public avec ses costumes. Les dames ont discuté sans fin de la coupe et de la richesse de ses vêtements, mais les amateurs de théâtre ont été très déçus. Elle a joué la pièce 18 fois consécutive, et puis en février, elle l'a abandonnée. À ce moment-là, Auguste Vacry se montre très sévère à propos de Rachel, et précisément à cause de son incapacité à créer des rôles contemporains. Voilà ce qu'il dit. L'art n'aura jamais trop de reconnaissance pour ces généreux comédiens, et ça c'est par opposition à Rachel, pour ces généreux comédiens qui ont travaillé à l'avènement de l'idée nouvelle, et ces cinq noms, Mademoiselle Mars, Madame Dorval, Mademoiselle Georges, Bocage et Frédéric Lemaître, doivent être inscrits sur l'arc de triomphe du drame moderne. Mademoiselle Rachel ne joue pas les drames discutés, elle joue les tragédies consacrées. Elle n'est pas la vaillante prêtresse des églises militantes, elle est l'alliée prudente des batailles gagnées. Elle est incapable de se mettre en danger et gère bourgeoisement son jeu et son succès. Les acteurs d'inspiration et de premier jet sont faits surtout pour la première représentation. Ce jour-là, la salle craquant de foule, tout le pari artiste, toute la critique, l'émotion de la lutte, la virginité du rôle, la curiosité du public, secoués par une action neuve, tous les éperons, ils se donnent corps et âme, ils se prodiguent, ils s'accumulent. Aux représentations qui suivent, la question du succès est résolue. Le dénouement a été divulgué par tous les journaux, ce n'est plus le public artiste et frissonnant, il y a des vides dans la salle. Et il illustre ça en disant, quand Madame Dorval avait un souper, elle mangeait la moitié de son rôle. Les honnêtes bourgeois, à qui leur journal avait promis une actrice fulgurante, tombaient sur une femme terne, froide, à côté de son rôle, quelconque. Bien des gens ont vu Madame Dorval 20 fois et ne l'ont jamais vue. Donc il fallait la voir évidemment aux premières où elle était dans l'enthousiasme. Au lieu que Mademoiselle Rachel ne trompe jamais l'espérance des bourgeois. La première représentation n'est pour elle qu'une ébauche qu'elle retouche, qu'elle termine de jour en jour, selon le goût de son public. Et il conclut, parce que ça il l'écrit après le départ de Rachel en Amérique, elle est en Amérique, qu'elle y reste. Quel grand rôle a-t-elle créé? Pour quel poète discuté, menacé, visé, criblé a-t-elle combattu? Elle a aidé la mort contre la vie. Très sévère, hein, comme... Puis c'est intéressant comme vision des choses, les acteurs de première représentation et les acteurs qui gèrent bourgeoisement leur rôle. C'est le seul dans lequel, Vacry, dans lequel j'ai trouvé ce genre de barrière. Et pourtant, Rachel a fait des efforts pour obtenir qu'un homme de talent, c'était Musset, écrive pour elle. Musset s'est exalté en 1838 à propos de Rachel, et dans le but d'être joué par elle, il a essayé de lui composer une tragédie. La tragédie s'appelait La Servante du Roi, et c'était une histoire dont il avait eu l'idée en lisant le récit des temps mérovingiens d'Augustin Thierry. C'est pour notre ami Laurent Tess. Et donc, la tragédie, le sujet, c'était la rivalité entre la reine Galswind et la servante Frédéric. Mais il n'est pas arrivé loin, il a écrit que quelques scènes, on en reparlera tout à l'heure. En 1839, il eut avec Rachel une liaison de 3 mois, qui commença le 29 mai. Et le 29 mai, on le sait, parce que ce soir-là eut lieu le fameux souper chez Mademoiselle Rachel, que Musset décrit dans une lettre de 10 pages, qu'il envoie à Madame Jaubert, qui l'appelait sa marraine, qui en fait était une femme plus âgée que lui, qui avait été sa maîtresse, mais qui restait sa confidente, et qui était surtout une femme qui avait un salon et qui faisait courir beaucoup de bruit dans Paris. L'écrivain s'était arrangé pour rencontrer la tragédienne à la sortie du Théâtre Français, où elle jouait dans le Tancrède de Voltaire. Elle l'avait emmenée souper chez elle, à la Bonne Franquette, tout ça est raconté dans la lettre, bien sûr, hein, avec des camarades, sa sœur Sarah et sa mère. Ils finirent par lire Phèdre tous les deux, le poète subjugué par la scène dont il était le témoin. Jamais je n'ai rien vu de si beau. Et jamais au théâtre, elle n'a produit tant d'effets sur moi. La fatigue, un peu d'enrouement, le punch, leur avancée, une animation presque fiévreuse sur ses petites joues entourées d'un bonnet de nuit. Je ne sais quel charme inouï répandu dans tout son être, ses yeux brillants qui me consultent, un sourire enfantin qui trouve moyen de se glisser au milieu de tout cela, tout enfin, jusqu'à cette table en désordre, cette chandelle qui tremblote, cette mer assoupie. Il y avait là à la fois un tableau digne de Rembrandt, un chapitre de roman digne de Wilhelm Meister, et un souvenir qui, pour moi, ne s'effacera jamais. Malheureusement, voilà qu'arrive le père Félix, grossier personnage, qui évidemment brise le charme et qui interrompt tout ça et l'ordonne à sa fille d'aller se coucher. La fille écœurée s'en va, il ne dit pas un mot à monsieur. Madame Jobert fit circuler dans le monde parisien ce texte, qui, en décrivant la jeune actrice comme une lumière née dans un monde de brutes, a fait beaucoup pour sa légende. Donc c'est un texte qui est resté célèbre. Le 31 août de cette année-là, Rachel s'effondre après une représentation de Bajazet. Elle souffre de la gorge et elle est très fatiguée, parce qu'elle a beaucoup joué. Elle ne peut reparaître en scène pendant 3 mois. La liaison avec Musset se termine provisoirement, car il avait horreur des femmes malades. De la tragédie qu'il avait essayé d'écrire, il ne reste à l'heure actuelle que 3 scènes, dont un monologue de Frédégonde, et Rachel l'avait appris par cœur et récité dans plusieurs réunions avec des amis pendant l'été 1839. Les deux amants se retrouvent de façon éphémère en janvier 43 puis en avril 46. Au cours d'un dîner chez elle, Rachel, pour s'amuser, met aux enchères une de ses bagues qu'Alfred a gagnée. Elle lui rappelle ses promesses, elle lui dit « Vous deviez m'écrire un rôle ». Mais elle s'en va en tournée en Angleterre, et lui, bah, il n'écrit pas de rôle, il se replonge en absinthe dans les filles et dans son ordinaire. À l'automne, de retour à Paris, Rachel est furieuse parce qu'elle découvre que non seulement il ne lui a pas écrit une ligne, mais qu'en plus, il s'est entiché d'une autre actrice, qui est Rose Thury, qui triomphait au gymnase dans Clarisse Harlowe. Alors là, elle lui a réclamé sa bague et il la lui a rendue. Dernier épisode, au printemps 51, elle l'invite à un dîner de cérémonie dans son hôtel, elle avait un très bel hôtel particulier, rue Truon. Il est devenu un auteur à succès, avec un caprice, qui a été bien accueilli à la fois par la critique et par le public. Il lui promet à nouveau d'écrire un rôle pour elle. De Londres, le 14 juillet, elle lui rappelle encore sa promesse. Il lui répond qu'il accepte, à condition d'être joué rapidement et de redevenir son amant. Une fois la deuxième condition réalisée, Musset s'attelle à la pièce promise. Il écrit un acte de Faustine, dont l'héroïne est une jeune femme indépendante de tout ça, qui pour échapper à un mariage négocié par son père, épouse clandestinement l'homme qu'elle aime. Mais après la première scène du second acte, il s'arrête net, et cette fois-ci, et il n'ira pas plus loin, Rachel n'insiste plus. Elle était sans doute lassée par l'impuissance de Musset à mener à bien un projet, ça faisait quand même longtemps qu'elle lui demandait un rôle, et peut-être aussi par son impuissance sexuelle qui était aggravée par son alcoolisme qui avait croissé. Passons maintenant à la dernière partie, qui sont les tournées. Alors les tournées, c'est très important, parce que, en particulier dans la vie de Rachel, et puis c'est la première vedette française à avoir fait d'aussi grandes tournées. On parle toujours des tournées de Sarah Bernhardt, mais moi je trouve qu'il est très dommage qu'on ne parle pas des grandes tournées de Rachel, parce que c'est quand même la première fois qu'une actrice a porté son nom aussi loin. Alors les tournées d'abord en province. En juin 40, Rachel part pour la première fois jouer en province, à Rouen. Et c'est la première d'une série de longues tournées. Il faut dire que ces tournées étaient très lucratives. Et c'est pour ça qu'elle partait régulièrement. Chez Rachel, il y avait comme un désir exalté de performance extrême. 3 jours avant son départ en tournée, je vous donne cet exemple parce que c'est quand même très drôle. Le 29 mai 49, elle écrit donc au docteur Véron, son ancien amant. Alors, je vous lis la liste. On se représente mal. Orléans, 29-31 mai. Tours, 1er 2 juin. Poitiers, 3-4. Niort, 5. La Rochelle, 6-8. Rochefort, 8-9. Sainte, 10-12. Cognac, 11-13. Angoulême, 14-15. 17-18. Périgueux, 19-20. Libourne, 22-23. Mont-de-Marsan, 25. Bayonne, 26-27. 29-30. Pau, les 2 juillet. Le 1er 2 juillet. Tarbes, 3-4. Bagnères, 5, etc. Il y en a 10 lignes. À la fin, elle met, donc ça va jusqu'au 31 juillet, et à la fin, elle met, quelle route ? Quelle fatigue, mais quelle dot. Au total, 74 représentations dans 35 villes en un peu moins de 2 mois, d'où elle aurait rapporté, dit-on, cette année-là, 135 000 francs. On peut comprendre le mécontentement du théâtre français, parce que c'était une des grandes raisons de guerre entre le théâtre français et Rachel, parce que quand elle rentrait épuisée de ses tournées, elle se mettait en congé. Or, au théâtre français, elle avait obtenu un statut extrêmement lucratif entre ce qu'elle avait comme fixe, puis ce qu'on appelait les feux, et puis les représentations à bénéfice. Elle obtenait par an du théâtre français environ 60 000 francs. Alors, ajoutez à ça les tournées, qui évidemment étaient bien plus lucratives. S'il est vrai qu'elle a gagné 135 000 francs pendant l'été de cette année-là, on peut imaginer. Donc, l'administrateur d'État français était très fâché contre elle. C'était une des raisons permanentes de protestation. Rachel avait sa propre voiture pour pouvoir éventuellement reprendre la route juste après la représentation du soir et gagner du temps en voyageant de nuit. Mais le rapide développement des lignes de chemin de fer lui a permis, entre deux représentations à Paris, d'aller jouer à Boulogne-sur-Mer, à Valenciennes, à Douai, à Arras, à Amiens, à Dunkerque, enfin dans les villes les plus proches. Elle affirmait d'ailleurs que les voyages la reposaient et qu'elle ne dormait bien que dans le wagon où elle faisait dresser son lit. Revenant de Lille le 22 mai 1850, elle était tellement profondément endormie, à 5 heures du matin, que le chef de gare a fait ranger son wagon et qu'elle s'est réveillée à midi au fond d'un atelier de serrure. Au cours de ses tournées, Rachel recevait souvent un accueil très chaleureux. Elle a joué pour la première fois à Bordeaux en août 1941. Le lendemain de son arrivée, elle se rend au théâtre où l'on donnait un petit opéra comique. Alors, voilà ce qu'elle écrit, c'est une lettre qu'elle envoie à Jules Janin. Deux ou trois jeunes gens me reconnurent, car bientôt, le peu qui se promenait dans les corridors et dans les loges vinrent se poser devant ma petite baignoire, m'y fixer si ardemment et avec tant de curiosité que je me vis obligée de quitter la salle et de revenir à l'hôtel, assez triste du mauvais et ennuyeux spectacle que je venais de voir, lorsqu'une assez bonne musique, passablement exécutée, vint me distraire agréablement. On me persuada enfin que cette musique était une galanterie bordelaise offerte à la jeune artiste. Je n'osais encore y croire quand j'entendis en effet mon nom répété dans la foule. Je m'imaginais avoir fait un rêve, je regardais par la fenêtre et je vis, à mon grand étonnement, plus de 10 000 personnes rangées dans la rue qui criaient à chaque entr'acte que faisait la musique « Rachel, Rachel !» C'était une véritable sérénade et je me couchais par là-dessus beaucoup plus rassurée qu'une heure auparavant. Elle avait mesuré sa popularité. Que j'ai joué, espérant m'esquiver plus facilement à pied, je priais M. Méry de me donner le bras. À peine avons-nous franchi le seuil de la porte, nous fûmes reconnus et aussitôt poussés, pressés, étouffés par une foule toujours croissante. L'éloquence de M. Vallier échoua devant l'enthousiasme de ces bons Marseillais. Nous ne trouvâmes de salut que dans la boutique d'un chapelier dont la porte fut bientôt assaillie et le commissaire de police vint nous offrir l'appui de son écharpe, escorté d'une vingtaine de soldats. Mais je vous prie de croire que nous refusâmes dédaigneusement ce secours et, confiant dans les sentiments de la multitude, nous nous présentâmes à elle, lui demandant de nous livrer passage. C'est très romantique, ça. Alors ce furent des applaudissements, des acclamations, un vrai triomphe. Je parvins enfin à rentrer chez moi, très flatté, mais rendu, moulu, fondu et promettant qu'on ne m'y prendrait plus. Je recevais atteint un chiffre jusque-là inconnu, celui de 8 200 francs. J'en suis toute fière quand on m'assure que celle de Talma n'avait pas dépassé 5 500. Et elle ajoute, parce qu'elle est modeste, il est vrai que les temps ont changé. Thévenet pouvait difficilement refuser d'honorer les demandes de représentation sous peine de manifestation de la presse et même de la justice. Et Rachel a eu affaire à tout ça. Rachel, justement, à Delphine de Gérardin en 1845, raconte les pressions dont elle a été l'objet à la suite du succès qu'elle a remporté à Nantes. Elle dit « Toutes les villes veulent de moi. Je me suis fait de mauvaises affaires avec Rennes, Vannes, Saint-Brieuc, où je n'ai pu me rendre. Les journées de ces villes se sont plaints avec amertume de mon peu d'empressement. Angers m'a envoyé du papier timbré, oui, du vrai papier timbré. Elle n'aurait pas cédé si le directeur du théâtre d'Angers ne s'était mis à pleurer, exprimant le désespoir de toute la ville. Du coup, elle y a joué en dramatique. Ça sert à quelque chose de vrai. Mais à côté d'accueil chaleureux et même délirant, Rachel a pu connaître des représentations difficiles qui tenaient au lieu où elle jouait et à ses partenaires. À Saintes, où elle faisait état en 1849, il fallut étayer d'urgence le théâtre, qui s'écroulait, et renforcer la façade par une cinquantaine de poutres avant la représentation du soir. La tragédienne s'est habillée dans un grenier, relié à la scène par une étroite planche, un véritable pont du diable. En juillet 40, après son triomphe à Lyon, Saint-Étienne désirait ardemment sa venue. Mais, outre que la ville était seulement dotée d'une modeste salle qui ne comportait que 600 places, c'était le théâtre du Pré de la Foire, elle ne disposait d'aucune subvention pour payer Rachel. Alors là, un journal, le Mercure Ségustin, a lancé une souscription. Et le 21 août, à l'aide du promis de cette souscription, Rachel a joué Horace. Malgré ses efforts, la représentation fut pitoyable. Il y eut une panne d'éclairage au gaz dans la salle. Rappelons qu'à l'époque, la salle restait éclairée pendant les représentations. C'est-à-dire qu'on a éteint les salles qu'à la fin du 19e siècle. Ce qui changeait beaucoup le rapport aux acteurs et aux moments. D'autre part, le souffleur soufflait avec tant d'ardeur qu'il faisait plus de bruit que l'ensemble des lacrymaux. Et enfin, comble des choses, à l'acte 4, le comédien qui jouait Valère, ayant oublié son texte, a sorti de sa toge une brochure de la pièce et a lu au vieil Horace, devant le public ahuri, le récit du combat de ses fils contre les Curiaces. Heureusement, Rachel a continué, imperturbable. Et elle a impressionné d'ailleurs d'avoir gardé son sang-froid et d'avoir continué. Elle a été récompensée de son passage à Saint-Étienne en recevant, à son retour à Paris, des rubans Rachel en velours façonné, créés spécialement par les fabricants de la ville. Le rapport d'une vedette venant de Paris avec les troupes provinciales s'avérait souvent très délicat. « Je vous quitte », écrit Rachel à l'un de ses correspondants en juin 40, « j'ai une répétition. Allons, il faut encore souffrir, ils sont si mauvais. » Elle joue à Rouen et il, évidemment, désigne les comédiens du crime. En tournée à Bordeaux en août 41, après une représentation de Cinna qui fut un désastre à cause des autres comédiens, elle écrit à son cher Sanson, « Ah, mon cher monsieur Sanson, comme je me repens de ne vous avoir pas consulté pour former une troupe de voyage. Quel supplice de jouer ainsi la tragédie, d'entendre à côté de soi un malheureux qu'on écrase à force du siffle. » Et il est vrai, on le voit d'après un rapport d'un inspecteur des théâtres, les acteurs de province étaient communément maltraités par le public. Bien pire que Marie. Il écrit, cet inspecteur, dans nombre de villes, les représentations sont constamment interrompues par les sifflets. L'humeur des spectateurs se manifeste de plus en plus, et les acteurs qui ont encore des talents les perdent par les désagréments qu'ils éprouvent d'un manque d'ensemble trop sensible et ils font de leur art un métier pauvre et honteux. En 1849, un journaliste dans un journal qui s'appelle la Revue Provinciale met la désertion des théâtres de province sur le compte du développement des chemins de fer. Il dit « Les provinciaux peuvent venir plus aisément à Paris et forcément, ils sont amenés à comparer. » Voilà ce qu'il écrit. Le spectateur de deux ensembles de Poitiers, insensible aux efforts de la troupe devant laquelle il vaille, songe avec regret aux acteurs d'élite qu'il a vus dans les mêmes rôles. Et tandis qu'au parterre, peuplé de bonnes gens qui naissent et meurent à l'abri de leur clocher, on rit et on pleure encore, ce spectateur-là murmure tout bas, « Ah, Rachel, comme elle disait ce vers. Ah, Dupré, comme il attaquait cette note. Ah, Ronconi, comme il chantait ce morceau. Ah, Frédéric, c'est évidemment Frédéric Lemaître. Ah, Déjazet. » Et la soirée tout entière se passe en lamentation. Alexandre Dumas, d'ailleurs, souligne la médiocrité des acteurs provinciaux. Même de grande réputation, si on les fait venir dans la capitale, dit-il, ils pâlissent vite au soleil ardent de Paris. C'est dur pour les provinciaux. Frédéric Lemaître, en 1834, a sollicité du directeur des Beaux-Arts l'autorisation de recruter une troupe pour ses tournées. C'est ce dont parlait Rachel tout à l'heure en disant à Sanson « Quel dommage que je n'ai pas recruté une troupe ». Et il rendait responsable de la médiocrité de troupes provinciales, non pas les comédiens eux-mêmes, c'est intéressant ça, mais les directeurs et les conseils municipaux qui nommaient les comédiens sans se préoccuper du tout de leurs aptitudes. Donc ils étaient amenés à tout faire sans savoir répondre. Hein. Pour les comédiens provinciaux, en plus, la venue des célébrités parisiennes représentait un surcroît de travail. Ils étaient obligés d'apprendre en peu de temps plusieurs pièces nouvelles. Tout cela pour des appointements sans commune mesure avec ceux de la vedette en tournée. Par exemple, au Havre en 1840, le premier rôle masculin touchait 400 francs par mois, tandis que Frédéric Lemaître pouvait obtenir 500 francs par représentation. Alors on voit la différence. En plus, la troupe sédentaire n'était jamais intéressée aux recettes, alors qu'il arrivait que les vedettes en tournée soient intéressées, selon les contrats, d'où une jalousie assez naturelle et beaucoup de mauvaise volonté, évidemment. Passons maintenant à l'étranger. Alors d'abord, là l'étranger, en gros, il y a l'Angleterre, la Russie et l'Amérique. L'Amérique étant quelque chose de nouveau. L'Angleterre et la Russie étaient quelque chose de très pratiqué par les acteurs en tournée. L'Angleterre, c'était le pays de prédilection pour les tournées à l'étranger parce qu'on pouvait y gagner beaucoup d'argent. Le théâtre français avait du succès auprès du public, au premier rang duquel la jeune reine Victoria, qui était montée sur le trône en 1837, parce qu'elle aimait le théâtre, d'abord, et que d'autre part, elle parlait très bien français, puisqu'elle écrivait son journal en français, comme tout ça. C'est donc en Angleterre que Rachel fait sa première tournée à l'étranger en 1841. Son père a entamé les discussions avec le Queen's Theatre, le théâtre italien de Londres, dès l'été 40. Le contrat est signé en mars 41 pour 5 représentations en mai. Les représentations sont payées chacune 3500 francs. Rachel part le 2 mai avec ses parents et elle jouissait déjà d'une brillante réputation en Angleterre. Le 9 mai, elle est reçue par le Talma anglais, qui s'appelait Macready, qui était acteur et directeur du Haymarket Théâtre. Et ce Macready a donné en son honneur une soirée qui réunissait les célébrités du monde littéraire et théâtral. Le 10 mai, elle est très applaudie dans Andromaque. Le 14 mai, elle joue Horace. Et là, c'est une première. Horace est amputé du cinquième acte. Et ce sera toujours comme ça aux États-Unis, parce que son personnage dans le cinquième acte, Camille, n'apparaît plus. Donc ça n'a plus aucun intérêt pour les anglo-saxons, donc le cinquième acte n'apparaît plus. On a bien fait, d'ailleurs, écrit le Times, de couper le cinquième acte, car en l'absence de Mademoiselle Rachel, la représentation n'avait plus aucun intérêt. Rachel est adoptée par la haute société anglaise, depuis la duchesse de Kent, la mère de la reine Victoria, jusqu'au vieux duc de Wellington, et elle passe son temps en réception de toutes sortes. Le 2 juin, elle rencontre la reine Victoria, qui avait presque le même âge qu'elle, chez sa tante à Marlborough House. Il y avait là une vingtaine de personnes, dont 3 archevêques, au public. L'actrice a récité quelques scènes, notamment de Cimna, qui était la tragédie préférée de la reine. Victoria est allée voir Rachel au théâtre le 4 juin, puis le 10 juin, elle l'invite à Windsor. La tragédienne interprète 3 scènes de Bajazet, Marie Stuart et Andromaque, séparée par des interludes de musique. Pour la remercier, la reine lui fait remettre un bracelet d'or qui est resté célèbre, composé de 2 serpents enlacés, aux têtes de diamants et d'émail bleu, à l'intérieur duquel était gravé « À Mademoiselle Rachel, Victoria, reine ». Rachel devait par la suite revenir presque chaque année en Angleterre, et elle a même fait dans les années suivantes une tournée en Écosse. Passons maintenant à la Russie. Vous m'accordez encore un quart d'heure?
Oui.
J'espère. À moins que je vous lasse totalement, mais ce serait dommage. Ce serait dommage de manquer la fin, surtout. Alors, la Russie est évidemment des relations anciennes et très privilégiées, lycée Paris à la capitale des tsars, et les élites russes s'exprimaient couramment en français. Elles étaient surtout très au courant de tout ce qui se faisait en littérature et en théâtre en France. Grâce aux acteurs français que le tsar engageait, Saint-Pétersbourg connaissait, avec un décalage de quelques mois seulement, tous les succès de Paris. C'est comme ça que Sacha Guitry est allé jouer, Lucien est allé jouer pendant longtemps à Saint-Pétersbourg, parce que c'est vrai que ça avait un succès fou. L'un des 4 théâtres de Saint-Pétersbourg était spécialisé dans le théâtre, dans le répertoire français, c'était le théâtre Michel, qui était fréquenté par la cour, l'aristocratie et la colonie française, c'est-à-dire 3000 personnes. Donc Rachel part là-bas avec une troupe, cette fois-ci constituée, et on verra d'ailleurs qu'elle a gardé cette troupe pour partir aux États-Unis, c'est toujours les mêmes qui, après, jouent avec elle. Elle est reçue royalement, parce qu'il y avait dans la réception des tsars en Russie quelque chose qui était particulièrement fastueux, bien entendu. Alors, elle obtient d'abord, elle a du mal au début, parce qu'elle obtient, ça c'est le départ, elle obtient d'Achille Fould, qui était le ministre d'État chargé du théâtre français, un long congé. Et il fallait qu'elle soit libre longtemps, parce qu'il fallait qu'elle parte pour... Donc elle part en octobre 53, et elle est libre jusqu'au 30 mai 54, ce qui quand même représentait beaucoup de temps. Elle arrive à Saint-Pétersbourg 9 jours plus tard, avec sa troupe. Elle joue au Théâtre Michel à partir du 6 novembre. Elle joue 4 soirs par semaine. Le prix des places était le double du prix ordinaire, et les recettes étaient très fructueuses. Dans une lettre à sa mère, l'actrice parle de 73 000 francs en 7 soirées. La 7e représentation d'Adrien le Couvreur a rapporté à elle seule 11 800 francs. Les jeunes officiers ont transformé en un tapis de roses et de camélias le chemin qu'elle devait suivre pour rentrer chez elle. Chaque représentation se terminait après 15 rappels sous des pluies de fleurs. La cour traitait l'actrice en souveraine et un grand banquet fut donné en son honneur au palais impérial. Alors voilà ce qu'elle écrit. C'est un grand-duc, frère de l'empereur, qui vient lui-même m'offrir la main pour me conduire à la table du banquet, une table immense, très élevée, comme sur une estrade, mais peu nombreuse, une trentaine de couverts seulement, mais quel choix de convives, la famille impériale, les grands-ducs, les petits-ducs et les archiducs, tous les ducs enfin de tous les calibres, et tout ce tralala, elle écrivait très bien, hein, et tout ce tralala de princes et de princesses curieux et attentifs, me dévorant des yeux, épiant mes moindres mouvements, mes paroles, mes sourires, en un mot, ne me quittant pas du regard. Eh bien, ne croyez pas que j'ai été trop embarrassée, pas le moins du monde. Alors, on se met à porter des toasts sans en honneur. Les jeunes archiducs, pour me voir de plus près, quittent leur place, montent sur des chaises et mettent même un peu les pieds sur la table, j'allais dire dans le plat, sans que cela ait l'air de choquer personne, tant il y a toujours encore un peu du sauvage, même dans les princes de ce pays-là. Elle répondit au toast par la grande scène de Phèdre, et plus tard, elle provoque carrément l'enthousiasme en déclamant l'hymne national russe. Après la représentation à son bénéfice, qui fut un triomphe, elle confia à sa mère, « L'impératrice m'a donné de splendides boucles d'oreilles, plusieurs abonnés se sont réunis pour m'offrir un merveilleux bracelet de diamants et rubis, la recette a dépassé 20 000 francs, j'en ai donné 15 000 tant aux pauvres qu'au théâtre. J'ai saisi cette occasion pour prouver à ce public quel cas je sais faire de ces applaudissements. Je ne me borne pas à jouer 4 fois au théâtre, je concours très volontiers à toutes les représentations à bénéfice et elles ne manquent pas ici. Je vais à tous les concerts me faire entendre, je dîne en ville pas mal, je reçois énormément de monde chez moi. » Elle quitte Saint-Pétersbourg le 6 février 54. Elle va à Moscou, où elle reste jusqu'au 9 mars. Et là, elle est très à la mode, parce qu'il y a à Moscou des bonbons Rachel, des valses Rachel, de la pommade Rachel et de la poudre Rachel. Et tout ça se vend très bien. Dans la rue, dans les magasins, on la reconnaît et on lui propose 200 000 francs par an pour qu'elle revienne jouer durant les 6 mois d'hiver pendant 5 ans. Mais c'est vers l'Amérique qu'elle a envie de se diriger. Et nous voici en Amérique pour sa dernière tournée. Le rêve américain était depuis longtemps à l'horizon de la famille, parce qu'en 1948 déjà, Rachel, au moment où les théâtres marchaient très mal ici, bien sûr à cause de la Révolution, Rachel parlait d'aller réparer sa fortune outre-Atlantique. Quant à son frère Raphaël, il croyait que l'Amérique était la terre promise, parce qu'il y avait une cantatrice d'origine suédoise, Jenny Lind, qui était allée là-bas lancée par l'impresario Barnum en 1850, et elle avait gagné plus d'un million de francs. Donc Raphaël rêvait beaucoup de faire la même chose avec sa sœur. Ils se rendent donc à New York à l'automne 54 pour négocier la location des théâtres où se produirait sa sœur. Le 12 mars 55, nouveau problème avec Achille Fould, Rachel sollicite l'autorisation de se rendre aux États-Unis et bien sûr un long congé. Fould d'abord refuse, mais après 6 semaines de transactions, Rachel obtient le congé de 15 mois qu'elle sollicite. Elle donne 9 dernières représentations au Théâtre Français en juillet 55. Puis elle part le 27 juillet en faisant étape à Londres avant de s'embarquer à Liverpool. Paul de Saint-Victor, dans la presse du dimanche soir 15 juillet, salue la tournée de Rachel comme si elle partait en ambassade chargée d'une mission culturelle. Voilà ce qu'il dit. Un grand artiste n'appartient pas seulement à son pays natal. Il appartient à tous ceux qui peuvent le comprendre, l'apprécier, le sentir. En propageant les chefs-d'œuvre de sa nation à travers le monde, il sème ses idées. Il vulgarise son langage, il l'a fait comprendre et admirer par les nations étrangères. Les voyages des grands artistes sont les invasions pacifiques d'un peuple à l'autre, les ambassades intellectuelles qu'ils s'envoient mutuellement, chargés des présents et des trésors de leur génie national. Ils réalisent dans le monde des idées ce que les navigations et les échanges du commerce opèrent dans le monde matériel. C'est un beau texte sur le travail des artistes finalement. À la tête de la phalange d'héroïne qu'elle incarne, dit-il, Rachel va rallier à la France des peuples étrangers. Et il termine en disant, chaque nation est intéressée au succès de ses émissaires, de sa lumière et de son esprit. Il recule ses frontières idéales, il lui fonde des colonies intellectuelles. Rachel avait signé avec son frère un contrat, qui est alors là, c'est curieux, à quel point il était célèbre, le contrat est publié dans le Figaro du 8 juillet. Elle s'engage à donner 200 représentations de drames, tragédies et comédies, choisies par Raphaël, entre le 1er septembre 55 et le 30 novembre 56, avec un congé prévu dans l'été 56. Aux États-Unis, en Amérique du Sud et ou à La Havane. Elle recevrait 6 000 francs par représentation, les dépenses d'hôtel et les frais de voyage étant à la charge de Raphaël. En cas de rupture de contrat, elle devrait payer 300 000 francs de dommages et intérêts. La troupe comprenait 22 personnes, dont 13 acteurs, en plus de Rachel et Raphaël. Parmi ces acteurs, il y avait leurs 3 sœurs, Sarah, Lia et Dina. Il y avait aussi 2 administrateurs, l'inévitable père Jacob Félix, et Gustave Naquet. Et puis il y avait aussi un souffleur, un caissier et 5 domestiques. D'après les projets de budget de Raphaël Félix, les acteurs recevraient des appointements élevés. Il était prévu que pour 200 représentations, les 3 hommes les mieux payés de la troupe toucheraient 30 000 francs et les sœurs de Rachel le double. Ce qui ne rendait pas facile l'atmosphère dans la troupe. Mais les costumes, en revanche, alors ça c'est un point important, neufs et conformes à ceux du théâtre français, devaient être exécutés aux frais de tous les acteurs. Ah, évidemment, il faut défalquer ça de ce qui venait, parce que ça venait très cher. Depuis le 23 juin, Gustave Naquet était à New York pour s'occuper de la publicité de la tournée. Il fit insérer des annonces dans les journaux, publia une biographie de Rachel, organisa la vente de portraits, photographies et statuettes de l'actrice. Il traita avec un éditeur pour que les pièces du répertoire, textes français et traductions littérales, soient imprimées et mises en vente le 31 juillet. Mais l'entreprise prit beaucoup de retard, donc ça a créé beaucoup de problèmes. Naquet avait également programmé une réception fastueuse pour Rachel le 22 août. Une vedette irait à la rencontre du paquebot qui la transporterait, le Pacifique, et emmènerait au port l'actrice qui serait accueillie par la musique des gardes Lafayette et les acclamations des invités. Mais le paquebot est arrivé avec 1h30 d'avance et Rachel a débarqué incognito. Du 3 septembre au 20 octobre, Rachel joue au Metropolitan à Broadway, grande salle de 3000 places inaugurée un an auparavant. Dès la première représentation, elle crée la surprise. Les spectateurs l'avaient attendu 2 heures, puisque le programme avait commencé à 19h30 avec une comédie trop longue qui s'appelait Les droits de l'homme. C'était l'habitude de faire attendre par une première pièce, la vedette qui ensuite arrivait dans la seconde pièce. Elle apparut après l'entracte, bien sûr dans la Canique d'Horace, avec le dernier acte tronqué. On imaginait une tragédienne démonstrative et on trouva, dit un journaliste, une femme à la voix profonde et pleine de retenue. La mort de Camille eut lieu sur la scène et le Times du 5 septembre écrit « Elle ne mourut pas comme le font la plupart des tragédiens qui courent à travers la scène pendant 10 minutes comme des porcs auxquels on a planté un couteau dans la gorge. Elle mourut comme César. Elle replia son manteau autour de son corps et, jetant sur son meurtrier un regard de reproche, elle tomba à terre, morte. » Si le spectacle provoqua l'enthousiasme, Rachel en fit la cause et pas du tout Corneille, malgré seulement les 4 premiers actes, puisque elle a joué après Racine, on a donné Phèdre, Racine a paru interminable, toujours le journal qui dit, et que dire de Polyeut, qu'elle a joué en octobre, alors ça fait quoi une tribune. En revanche, Adrienne Lecouvreur, donc toujours ce qui est de mauvais, a emporté l'adhésion générale, parce que ça, évidemment, d'abord il n'y avait pas de verre, puis d'autre part on comprenait l'histoire de l'actrice, même si on avait lu que le résumé, c'était quand même facile à comprendre. Mais de toute façon, les gens venaient, les spectateurs venaient pour voir Rachel, mais aussi pour admirer ses robes et pour évaluer ses bijoux. Et ça, les journaux parlent énormément des costumes et des bijoux. Dans Adrienne Lecouvreur, elle change de robe à chaque acte. Alors les journaux décrivent la première avait le corsage ajusté, la taille basse et pointue, les manches longues, etc. La deuxième était une robe orientale brodée d'or, la troisième une robe de soie jaune. Je vous passe la suite. Les connaisseurs, c'est-à-dire les bijoutiers et les changeurs, évaluèrent les diamants et les pierres précieuses que portait l'actrice à 245 000 dollars, c'est précis. À côté de cette présentation, Rachel donna des lectures dramatiques pour les personnes à qui leurs principes religieux interdisaient l'accès au métropolitain, mais qui souhaitaient quand même l'entendre. Ces lectures eurent lieu au Tabernacle et au Niblo's Garden devant 1 millier de personnes à chaque fois. Les acteurs à ce moment-là jouaient en costume de ville, mais avec les mouvements de scène appropriés. Le 21 octobre, la troupe part pour Boston jusqu'au 3 novembre, puis revient à New York. C'est à ce moment-là que se produit le drame. Un transatlantique apporte le courrier avec le journal de débat du 15 octobre. Le feuilleton de Jules Janin, consacré à Mademoiselle Rachel et la tragédie aux États-Unis, était parfaitement au lieu pour les Américains. Le critique s'affligeait de l'échec de Rachel aux États-Unis, or elle n'échouait pas du tout, mais il racontait du contraire. Une démocratie, disait-il, incapable de comprendre et de goûter des œuvres écrites pour des rois et des princes. Il accusait le public d'avoir réclamé la Marseillaise pendant la représentation de Cinna, ce qui était faux puisque Rachel n'avait justement pas joué Cinna. Il affirmait que la Marseillaise, cet hymne violent, était la seule tragédie, le seul drame que la démocratie puisse aimer et comprendre. Le drame agité de la foule qui hurle à tous les carrefours, la tragédie d'un peuple qui foule à ses pieds toutes les grandeurs d'autrefois. Les Américains sont grossiers, toujours ce jeune nain, ils posent leurs pieds contre les murs du théâtre, ils passent leur temps à couper les bras des fauteuils avec leurs couteaux. Rachel, dit-il, doit être dérangée par le bruit que produisent ces faiseurs de copeaux. Ils ont mauvais goût en littérature, ils préfèrent les grosses paroles au bruit musical et cadencé. Il adjurait donc Rachel de rentrer tout de suite, de quitter ce public composé de femmes hystériques et de gens de couleur. Par respect pour nos chefs-d'œuvre, par pitié pour la plus grande artiste de nos jours, ne les exposons pas plus longtemps qu'il faudrait au dédain d'une démocratie. La France, pays des élégances, s'apprête à la consoler de ce qu'elle a vécu au pays de la chose utile. La réaction de la presse et de l'opinion a été très vive, et pas seulement aux États-Unis. Le journal des débats, à Paris, a reçu une foule de lettres qui demandaient le renvoi du critique. Lors de sa soirée d'adieu à New York, le 17 novembre, pour répondre à l'enthousiasme délirant du public, Rachel a lu à la fin une ode à l'Amérique qu'elle avait fait composer par un de ses amis, un rédacteur au Courrier des États-Unis, et l'ode se terminait ainsi. « Apôtre confiante, avec moi sous vos cieux, j'ai porté mon espoir, mon oracle et mes dieux. J'ai parlé devant vous la langue du génie pour imposer silence à qui vous calomnie. Voici votre réponse. Elle est dans cet accueil qui me gonfle le cœur d'un légitime orgueil. » C'était pas bon. Les journaux évoquaient l'atmosphère de ferveur de cette soirée, et bien sûr ils se sont vengés de Jules Janin en s'en moquant. Voilà ce qu'on lit. « Pauvre gros Jules Janin, comme ton petit cerveau boursouflé aurait été surpris si, planté au beau milieu du parterre du Niblo's, tu avais assisté cette semaine, soir après soir, aux échecs soulignés successifs de Rachel, puisqu'évidemment c'était tous échecs, devant ces auditoires composés de bloomeristes, c'est-à-dire de féministes, de nègres, de négresses, de juges, revolvers en poche, qui, tout en regardant le spectacle, tagadent les fauteuils et crachent par terre. Malgré ce qu'on disait à Paris la presse, qui à la suite de Jules Janin parlait d'échecs, parce qu'évidemment tout ça se répercutait, le succès de Rachel dans cette première partie de sa tournée était incontestable. Les réactions des journalistes et du public étaient excellentes, les recettes se situaient entre 1600 et 5000 dollars, le dollar à l'époque valait 5 francs 40, à titre de renseignement, et beaucoup dépassaient les 3000 dollars. Si bien que Rachel peut envoyer en France à la mi-novembre 300 000 francs et Raphaël 60 000. Ils avaient gagné beaucoup d'argent. Tout se gâte à Philadelphie, où la troupe arrive le 18 novembre. Rachel a pris froid à New York, et elle se met à tousser tellement que, après une soirée triomphale le 19 novembre, elle doit s'aliter. Le médecin lui conseille de partir sans attendre pour Charleston, qui a un climat plus chaud. À Charleston, ils arrivent là-bas le 1er décembre. Les acteurs sans Rachel donnent des représentations pour essayer de réduire leurs frais. Rachel voit un médecin qui lui dit qu'il faut vous reposer pendant 6 mois, mais à ce moment-là, les dames de la bonne société sont désespérées parce qu'elles veulent quand même l'avoir entendue, donc elles lui disent « Mais vous n'allez pas vous fatiguer au théâtre, mais venez chez l'une d'entre nous dans une maison privée, jouer Adrienne Le Couvreur. » Et voilà la dernière représentation d'Adrienne Le Couvreur, puisque Rachel ne remontera jamais sur la scène. Donc elle a cédé aux instances, elle joue Adrienne Le Couvreur, c'était le 17 décembre 1855. Non, écrivait l'une des dames de Charleston, ce n'est pas Adrienne Le Couvreur que nous avons vue, que nous avons entendue dans le dernier acte. C'est Rachel elle-même, disant adieu au triomphe du théâtre, à l'amour, à la vie. C'est Rachel qui ne reparaîtra plus jamais sur aucune scène et dont la glorieuse carrière est terminée. La fiction n'a pas de ses actions. Et j'ai lu quelque chose d'absolument bouleversant qui est le journal qu'a tenu Jules Chéri, un des acteurs de sa troupe, qui la connaissait depuis très longtemps, et qui lui donnait la réplique dans Adrienne Le Couvreur. Et Jules Chéri, c'est bouleversant de dire ça, parce qu'il dit, mais il est certain qu'elle ne pourra plus jamais jouer, je vois bien que j'ai joué là, pour la dernière fois avec elle. Donc tous les gens qui la voyaient, qui l'entendaient, savaient que c'était terminé. Le 18 décembre, la troupe s'embarque pour Cuba. Rachel hésite encore entre l'espoir et l'accablement. Elle écrit justement à ce journaliste qui lui avait composé cette ode pour la mairie. « Mon succès sera grand, l'abonnement pour les 12 premières soirées dépasse déjà 60 000 francs. Songez que le jour de mon début est loin d'être fixé. Sais-je seulement si je jouerai et si plusieurs mois de repos ne me sont pas nécessaires. Quoi qu'il arrive, je me résigne. Avant tout, je vais vivre encore. Si je ne dois plus jouer la tragédie, si cette force me fait défaut, je sens que la force de mon amour pour mes fils grandit à tout moment. Je veux voir des hommes en mes enfants. Alors, au passage, elle avait deux fils, et elle avait eu l'un avec le comte Walewski, le fils de Napoléon et de la princesse Walewska, qui lui avait été reconnu par son père, et le second non reconnu par son père. Le premier s'appelait Alexandre, le second s'appelait Gabriel, et c'était le fils d'un débauché, d'un joueur, qui l'a très bien fait pour faire reconnaître son fils par son père, pour le second. Mais elle s'en occupait, elle était très attentive. Avant de mourir, d'ailleurs, elle s'est beaucoup occupée de comment elle pourrait leur léguer son argent et comment tout ça pourrait leur rester. Mais le 7 janvier 56, toujours habitée à La Havane, elle a perdu toutes ses illusions. Elle écrit « Je suis malade, bien malade. Mon corps et mon esprit sont tombés à rien. Je ne jouerai pas non plus à La Havane, mais j'y suis venue. Et le directeur, usant du droit de son contrat, a demandé comme dommage 7000 piastres. J'ai payé. J'ai payé les artistes jusqu'à ce jour. Je ramène toute ma pauvre armée en déroute sur les bords de la Seine. Et moi, peut-être, comme un autre Napoléon, j'irai mourir aux Invalides et demander une pierre où reposer ma tête. Mais non, je trouverai encore mes deux anges gardiens, mes jeunes fils. J'entends qu'ils m'appellent. Ainsi, c'est trop de temps passé, hors de leurs baisers, de leurs caresses, de leurs chers petits bras. » Le 8 janvier, la presse de La Havane publie un comité annonçant que Rachel ne jouera pas et qu'on remboursera plus. La troupe prend le chemin du retour et arrive à Paris le 26 février. Alors Rachel va vivre encore 2 ans, puisqu'elle mourra au début de 1858. Mais pendant ces 2 ans, bien sûr, elle ne jouera plus. Elle va essayer de se soigner. Elle va aller en Égypte. Elle fera tout un tour sur le Nil en espérant que le climat chaud va la remettre un peu. Mais en fait, c'est dramatique, d'ailleurs, cette description, parce qu'elle dit, au fond, je suis déjà comme une momie, elle ne peut même plus mettre le pied par terre, enfin, c'est affreux. Et en 1857, avant de partir pour Cannes, où elle allait mourir, donc début janvier 1958, Rachel évoquait toujours la tournée américaine. Elle dit, quel cruel voyage, je n'en puis encore parler sans répandre des larmes, sans me dire ce qu'ont eu de terribles les déceptions qui m'attendaient, et que le mal affreux qui me dévore a si rapidement fait naître. J'ai eu trop de foi dans mes forces physiques, trop de confiance en mon étoile, et sans précaution aucune, j'ai marché devant moi sur cette interminable route qui va de New York à La Havane, la dernière étape de mon odyssée mortelle. Je vous remercie.